À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Jérôme Garcin, très heureux d'être avec vous.
Premier épisode, le syndrome de Garcin. Bonsoir Jérôme Garcin.
Bonsoir ou bonjour.
Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On est dans votre maison à Paris. On connaît votre voix puisque vous produisez l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter tous les dimanches à 20h et ce depuis quelques années, voire quelques décennies. On connaît aussi votre nom puisque vous signez des critiques littéraires dans les pages de l'Obs dont vous dirigez les pages culturelles. Et on connaît enfin votre plume puisque vous êtes l'auteur de nombreux livres, des récits et des biographies romancées ou de romans biographiques, vous nous direz comment vous les concevez, pour lesquels vous avez remporté des prix comme le Médicis Essai en 94 pour Jean Prévost, le Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Institut de France en 2013 pour l'ensemble de votre œuvre, ainsi que le prix des Deux Magots en 2020 pour Le Dernier Hiver du Cid. J'ai donc choisi d'intituler chacune des 5 émissions de cette série avec le titre d'un de vos livres. Alors le syndrome de Garcin pour cette première, parce qu'on va parler de vos origines, mais Fragile pour la deuxième, dans laquelle on reviendra sur les drames successifs que vous avez connus, enfant et adolescent, en perdant votre frère et votre père. Perspective cavalière pour la troisième, car nous parlerons de votre rapport au cheval. Théâtre intime pour la quatrième, où il sera question des figures dont vous avez fait des personnages de romans. Et enfin, nos dimanches soirs, où vous nous parlerez de votre métier de journaliste, mais aussi de l'écrit et de l'oral. Alors, on va commencer par le début. Le syndrome de Garcin. Le syndrome de Garcin, en fait, c'est une découverte de votre grand-père, Raymond, dit papy, qui était un grand neurologue à la Salpêtrière. Et il était peintre aussi à ses heures. Parlez-nous un peu de ce Raymond Garcin.
D'abord, il faut que je dise avant que je suis porteur d'innombrables syndromes, puisque Raymond Garcin était le gendre du professeur Guillain. Vous connaissez aussi le syndrome Guillain-Barré, etc., etc. Mais peut-être qu'on y reviendra. Et on a devant nous, ou derrière moi, 7 générations de médecins. Mon grand-père Raymond Garcin était neurologue, très grand neurologue, qui était professeur de neurologie à la Salpêtrière, où il a fait de très grandes découvertes, dont ce fameux syndrome de Garcin qui porte réellement son nom, qui est une paralysie des nerfs crâniens que je ne souhaite à personne d'avoir. Mais ce qui est intéressant chez ce grand-père paternel, c'est que c'était à la fois, je l'ai dit, un très grand neurologue, mais c'était surtout et d'abord un très grand clinicien. Il pratiquait une médecine, malheureusement aujourd'hui totalement révolue, d'abord qui était fondée sur une bienveillance, un humanisme. Vous savez, c'était l'époque où les élèves de médecine faisaient ce qu'on appelait des humanités. Je trouvais ça magnifique. Ça a disparu. Mon grand-père Garcin, comme mon grand-père Launay, qui était un autre médecin, mais on en reparlera du côté maternel, était d'abord des lecteurs avant d'être des grands médecins. Et c'est grâce à ce grand-père Garcin que j'ai peut-être pour la première fois lu Montaigne et quelques autres grands auteurs. Et il était, je le disais, un grand clinicien. C'est-à-dire que il procédait à ses analyses des malades qu'on lui présentait avec, en général, avec des instruments absolument ordinaires, qui vont de l'épingle à nourrice jusqu'au coton en passant par des tubes. Et surtout, il touchait. C'est-à-dire qu'il trouvait des choses incroyables, qui allaient des tumeurs jusqu'à des dérèglements cérébraux graves, uniquement par une approche tactile, encore une fois très humaine, très bienveillante, du corps de celui qu'il avait à ausculter et souvent à soigner.
Est-ce qu'il était aussi tactile avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, qu'il l'était avec ses patients?
Mais vous savez, moi j'ai vécu dans des familles, je dis bien des familles de médecins, qui ont toujours séparé leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Même pour une grippe, les enfants, petits-enfants n'étaient jamais soignés ni par le professeur Clément Launay, mon grand-père maternel, ni par le professeur Raymond Garcin, mon grand-père paternel. Ils trouvaient presque gênant. D'abord, c'était une époque où où on n'avait pas ces rapports-là que moi j'ai eu avec mes enfants, que j'ai aujourd'hui avec mes petits-enfants. Mais dans l'exercice de leur métier, c'est vrai que, vous voyez, il y a un mot magnifique que répétait sans cesse mon grand-père Garcin, papy, comme vous l'avez rappelé, qui venait d'un prix Nobel de médecine qui s'appelait, dans mon souvenir, Nicole. Et un jour, un médecin était désemparé parce qu'il ne savait pas comment soigner son malade. Et le mot de Nicole, de ce prix Nobel de médecine, c'était, s'adressant au médecin, mais lui avez-vous pris la main au moins ? Et je trouve que ça résume exactement ce qu'était l'exercice de la médecine, selon mon grand-père Garcin, qui lui, d'instinct, et je dirais même professionnellement, avait besoin de prendre la main. Quand le syndrome de Garcin a apparu, j'ai reçu beaucoup de témoignages, évidemment de disciples de Raymond Garcin, d'élèves, d'internes, mais aussi beaucoup de messages de médecins qui étaient malades, qui étaient soignés, pour certains, dans des hôpitaux, et qui me disaient, mais ce que vous racontez, me disaient ces médecins, c'est ce que je rêverais aujourd'hui dans cette chambre d'hôpital d'avoir, c'est-à-dire d'autres médecins pour m'ausculter, pour me prendre la main, pour me regarder, pour tenter de comprendre ce que j'avais autrement que ce qu'est devenu la médecine, c'est-à-dire une médecine en 3D, où on juge normal et presque légitime d'ausculter à distance et en visio un malade, ce qui évidemment, en cas extrême, notamment pendant un confinement, est possible, mais qui, dans la règle quotidienne, est invraisemblable. Mon grand-père Garcin, par exemple, dont il faut comprendre qu'il est mort au début des années 70, donc quand la médecine était déjà, si j'ose dire, moderne, mon grand-père Garcin refusait ce qui est devenu une loi, c'est-à-dire que les examens complémentaires précèdent les examens cliniques. Il n'avait rien contre les radios, contre les scanners, contre tout ce que l'imagerie extraordinaire qu'on peut aujourd'hui effectuer. Mais il disait, mais il faut commencer par l'essentiel, parler, toucher, comprendre et avoir ces gestes qui sont la loi fondamentale de la médecine.
Mais il faut dire qu'il consacrait énormément de temps, votre grand-père Raymond, à son travail. Il disait même à ses 5 enfants, je crois, ne faites jamais mon métier, parce que lui, il sacrifiait tout à son métier.
Je l'ai incroyablement aimé et je l'ai très peu vu, finalement. C'était un sacerdoce au sens le plus religieux du terme. Il ne vivait que pour son métier, il ne vivait que pour soigner, que pour sauver des vies. Et les seuls moments, finalement, où je l'ai vu sortir de cette clôture... c'est les étés en Normandie. La Normandie, c'est le Bessin, c'est Saint-Laurent-sur-Mer, c'est les plages d'Omaha Beach, d'après-guerre, donc vous imaginez ce qu'étaient ces plages, encore striées par des bateaux amphibies qui rapportaient de la mer, des carcasses rouillées de bateaux de guerre. Ces seuls moments, c'était tout d'un coup mon grand-père qui, sans jamais quitter son costume trois pièces, son col dur, sa cravate, même au cœur du mois d'août, m'emmenait en voiture, dans sa vieille voiture, qui était une immense Ariane noire, qui conduisait à 20 à l'heure, m'emmenait au sommet de la Pointe du Hoc. La Pointe du Hoc, à Omaha Beach, c'est là où les soldats canadiens ont débarqué. Et là-haut, il sortait son chevalet, il mettait un chapeau de paille caribéen, et il se mettait à peindre de très jolies aquarelles. J'en ai certaines ici d'ailleurs. Et il s'octroyait, quoi, je dirais, 2 heures, comme ça, de liberté absolue. Il n'était plus le neurologue de la Salpêtrière. Il peignait. Et j'oublierai jamais cette mer qu'il peignait, c'était la Manche, qui n'est pas la plus rieuse des mers, qui est assez éloignée dans ses couleurs de la Méditerranée. Eh bien, pourtant, à cette Manche-là, il donnait évidemment les couleurs de la mer de sa Martinique natale. Et tout d'un coup, il transformait dans son regard et sur ses tableaux, il transformait la réalité en souvenir d'enfance. Mais c'est vraiment les seuls moments que j'ai connus. Pour le reste, il était absorbé. J'ai encore en souvenir un texte qu'il avait prononcé en ouverture d'un congrès de médecins de neurologie à Anvers, juste après la mort de mon jumeau, renversé par une voiture en 62. Et je vois Raymond Garcin, enfin je lis Raymond Garcin faire ce magnifique discours sur la médecine bienveillante, la médecine humaniste, alors qu'il venait de perdre son petit-fils, qui était présent, je dirais, entre les lignes, mais jamais dans les lignes, parce qu'il y avait ça aussi chez lui, la pudeur absolue, la rigueur absolue, on ne se plaint pas, on ne s'explique pas. Et en même temps, rien n'aurait pu l'empêcher de se rendre quelques jours après la mort d'Olivier à ce congrès et de prononcer un discours. Ce que je veux dire, c'est que ce métier était beaucoup plus qu'un métier. C'était vraiment une manière d'être, de vivre, qui passait, c'est vrai, parfois par le sacrifice des siens, c'est-à-dire que ça, il les aimait, il aimait sa famille, mais ça passait juste après.
Et peut-être, comme vous le disiez, comme on le comprenait là, avait-il du mal à le montrer ou à exprimer ses sentiments? C'était plutôt du côté launé qu'on arrivait à exprimer ses sentiments. Le côté launé, c'est l'autre côté. Et le grand-père qui, disons, vous a donné l'affection et le soutien plus explicite, plus visible, même pour vous, c'est Clément Launay, qui était pédopsychiatre.
Ça, du côté maternel. C'est la branche maternelle. Et donc, mon grand-père, Clément Launay, était pédopsychiatre, il était professeur à l'hôpital Hérold, et il était l'exact contraire de mon grand-père paternel, c'est-à-dire sans la rigueur, je dirais parfois intraitable, de mon grand-père Garcin, tout aussi lettré, humaniste et bienveillant que Raymond Garcin, mais beaucoup plus généreux de lui-même, et beaucoup plus pater familias. Il a vécu beaucoup plus longtemps que mon grand-père Garcin, puisqu'il est mort en 92, alors que Raymond Garcin est mort, je le disais, en 1971. Et dans les instants qui ont suivi la mort de mon jumeau, Clément Launay, PAM, a joué un rôle capital. Sans doute parce qu'il était pédopsychiatre. Il regardait le jumeau sans jumeau que j'étais tout d'un coup devenu, en se posant des questions dont il avait parfois les réponses. On sait tous que Olivier est mort, on allait avoir 6 ans, lui et moi. Et on sait que 6 ans, c'est l'âge auquel les pédiatres conseillent de séparer les jumeaux. On l'était de manière un peu caricaturale, Olivier et moi, dans les années 60, c'est-à-dire habillés de la même manière, avec les mêmes shorts, avec les mêmes culottes courtes, avec les mêmes chemises. Et 6 ans, c'est le moment où il faut apprendre à chaque jumeau à être singulier. Et évidemment, quand je suis rentré en septembre à l'école, à l'approche de mes 6 ans, j'avais pas cessé d'être un jumeau. Quand on perd son double, on reste un jumeau. On ne devient pas pour autant singulier. Et donc j'ai bien vu qu'il me regardait avec une incroyable compassion, mais aussi il a été mon socle. Et ensuite, quand 10 ans après la mort d'Olivier, mon père est mort d'une chute de cheval, de manière très brutale, là, il a joué vraiment un rôle paternel, puisque je n'avais ni jumeau ni père. Et surtout, il a fait ce que n'aurait sans doute pas voulu faire Raymond Garcin, c'est-à-dire qu'il m'a parlé. Lui et ma grand-mère m'ont raconté l'enfant que j'étais avant l'accident, pendant l'accident, après l'accident. Il a mis des mots. Il était le premier à me faire comprendre qu'il fallait parler, qu'il fallait pas garder les choses pour soi, ce que j'ai mis du temps à pratiquer, mais bon, et à oser dire des choses à un garçon qui grandissait, qui devenait adolescent, que j'avais besoin d'entendre, mais que seul lui pouvait, et elle, ma grand-mère, pouvait me dire.
C'est ce que j'allais dire, Jérôme Garcin. Il y avait aussi Madeleine, vous l'aimiez beaucoup, Madeleine, votre grand-mère Madeleine, dites mam. Il y avait le grand-père Clément, donc Pam, mais il y avait aussi Mam, vous l'aimiez beaucoup, elle a beaucoup compté, et ils ont vécu tous les deux très longtemps. Ils s'aimaient beaucoup d'ailleurs tous les deux, à tel point qu'ils sont morts le même jour.
Et c'était une histoire absolument incroyable, c'est que mon grand-père Clément Launay, donc, meurt très brutalement d'un arrêt cardiaque. Et j'appelle ma grand-mère, Mam, que j'aimais passionnément, Et je lui dis combien je pense à elle au téléphone. Je l'appelle un matin, je n'oublierai jamais. Et là, elle me dit, mais mon chéri, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je dis, mais c'était pour te dire combien je suis près de toi quand, après la mort de son mari, qui était Enfin, elle passait son temps. Je la vois encore à 80 ans caresser le crâne de mon grand-père comme un œuf. Enfin, c'était incroyable. Elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Surtout, ne t'inquiète pas. Et puis, elle a raccroché. Et quelques heures après, elle est morte. Et elle est morte sans aucune raison médicale. Ce qui fait que quelques jours plus tard, on a accompagné deux cercueils côte à côte dans l'église Saint-Séverin. Et je n'avais jamais vu encore, jamais connu en tout cas, cette expérience qui consiste dans un couple à ce que l'autre suive l'un ou l'un suive l'autre de la manière la plus naturelle possible et comme une évidence. Et tout d'un coup, les mots me revenaient, mais ne t'inquiète pas, mon chéri, elle allait tout simplement le rejoindre.
Jérôme Garcin, vous disiez que ces deux familles, les Garcins et les Launay, étaient très très différentes, en tous les cas que les deux pères, les deux grands-pères pour vous, étaient quasiment à l'opposé l'un de l'autre. Il y avait quand même des points communs dans cette famille. Dans votre livre, Le syndrome de Garcin, vous écrivez qu'en commun, ils avaient le caducée et la croix, le stéthoscope et l'étole, le vidal et la Bible. C'est-à-dire que la religion catholique était très importante, aussi importante que la médecine.
Je pense que ce sont deux générations. Si on va à l'Académie de médecine aujourd'hui, il y a un arbre généalogique qui est unique en son genre. C'est d'un côté la branche Launay, où de père en fils on est médecin, depuis le premier Launay, donc sur cette génération, qui était chirurgien sur les champs de bataille napoléonien. Donc de père en fils. Du côté paternel, donc du côté des Garcins, on obéit à la loi de l'escalier, qui est aujourd'hui est insupportable, tellement elle est caricaturale, c'est-à-dire que le médecin épouse la fille de son patron. Donc Raymond Garcin, mon grand-père, épouse la fille de son patron. Guilin, qui épouse la fille de son patron. Chauffard, qui épouse la... Bon, je vous passe, parce qu'il y en a...
Il y en a beaucoup. Il y a une très longue généalogie.
Et on arrive sur les mêmes champs de bataille napoléoniens, avec un autre chirurgien d'Empire, qui est mon premier ancêtre, médecin, qui s'appelait Boyer, Alexis Boyer. Et donc... Tous étaient membres de l'Académie de médecine dans des spécialités totalement différentes. Et donc, vous avez ces, d'un côté, encore une fois, de père en fils, de l'autre côté, de gendre en beau-père, donc sous la formule de l'escalier, au lieu de la ligne droite. Et donc, évidemment, c'est assez unique parce que on touche à toutes les spécialités de la médecine, à tous les hôpitaux. Et la génération que j'ai connue, qui est celle de mes grands-parents, même si j'ai à peine connu tout juste mon arrière-grand-père Launay, étaient des familles mandarinales, on ne peut pas le nier, qui étaient fondées sur le sacerdoce médical qui s'ajoutait à la pratique religieuse catholique et donc qui constituaient des familles où, là, effectivement, le caducée et la croix étaient absolument inséparables. Et... là encore, c'est tout à fait inimaginable aujourd'hui. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai grandi, moi, petit-fils de Launay et de Garcin, j'ai vécu dans des campagnes où ce qui comptait, c'était la messe du dimanche, c'était les cloches qui sonnaient pour appeler
à le curé qui passait après.
Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le bien et le mal. Et aussi cette idée que j'ai avec le temps eu de plus en plus de mal à supporter, à savoir que quand arrive un drame, la mort d'un enfant, la mort précoce d'un père, c'est considéré comme un sacrifice légitime. On rend à Dieu, et finalement, qui accueille à bras ouverts celui, en tout cas en ce qui me concerne, que je ne supporte pas d'avoir perdu. Et c'était très, très puissant dans ma famille, ça rythmait la... Je dirais que la loi catholique rythmait les semaines de ces familles-là. Ma grand-mère Launay, ma grand-mère adorée Mam, étant peut-être la plus pieuse d'entre toutes et tous, alors qu'elle était venue très tardivement au catholicisme, puisque ma grand-mère, Madeleine Launay, née Madeleine Penancier, était la fille unique du garde des Sceaux de Daladier, d'Edouard Daladier, qui s'appelait, donc mon arrière-grand-père, Eugène Penancier. Il était donc à la fois maire de Bray-sur-Seine, à l'époque le cumul était, c'est comme l'endogamie, c'était... Et il était sénateur de Seine-et-Marne et il était ministre de la Justice de Daladier à une période cruciale, hein, c'était 33-34, au moment du 6 février, il était au Palais Bourbon. Et évidemment, il était comme tout, il était Ratzok, Ratzok XXL, et évidemment, il bouffait du curé, il mesurait 2 mètres et quelques, il mangeait un gigot par déjeuner, et il bouffait du curé en même temps, de manière sauvage, et il pouvait même pas imaginer que sa fille unique, Madeleine, puisse s'approcher d'une église. Elle avait, à l'adolescence, fui l'appartement du boulevard Saint-Germain, où habitait mon arrière-grand-père, pour aller se faire baptiser, à l'insu de son père, à l'église Saint-Séverin, qui est devenue notre église historique aussi pour cette raison-là. Et c'est comme ça qu'elle est devenue catholique, mais tardivement, contre la volonté de son père.
Son père qui introduit donc un élément de rupture. Il y en a eu quelques signes quand même, des ruptures dans cette longue généalogie, en tout cas médicale, puisque ce sont vos parents, Jérôme Garcin, qui ont rompu au moins un des deux côtés. Ils ont peut-être gardé le catholicisme, mais ils ont rompu avec cette généalogie hippocratique, puisque donc le fils du professeur Garcin a épousé la fille du professeur Launay, Françoise et Philippe, sauf que Françoise était peintre et graveur, et que Philippe, votre père, est devenu éditeur aux Presses universitaires de France et auteur. Plus de médecine à leur niveau.
C'est ce couple-là, le couple de mes parents, qui a coupé l'arbre généalogique dont je vous parlais. Ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient tous les deux à l'occasion d'une soirée, précisément des filles et fils de grands médecins. Mais l'un et l'autre ont fait le choix de filières totalement opposées. Effectivement, la médecine et aussi pour ma mère, la restauration de tableaux qui a beaucoup compté dans son histoire.
Ce qui fait que vous dites qu'elle pratiquait la chirurgie esthétique quand même.
Ben, c'est-à-dire, j'ai plaisir à croire que quand je voyais ma mère en blouse blanche avec des cotons, ceux de mon grand-père Garcin, restaurer un tableau qu'on lui apportait du Louvre ou des tableaux de maître qui étaient absolument noirs charbon, et avec un petit coton, elle transformait ces ciels noircis tout d'un coup en ciel bleu azuréen, et je la voyais transformer avec sa blouse blanche ses tableaux de nuit en tableaux de jour. Il y avait quelque chose pour moi qui était de l'acte médical. Quand mon père, qui était le directeur des Presses universitaires de France, maltraitait les manuscrits de ses auteurs, j'y voyais un peu un acte chirurgical. Donc je me suis amusé à croire qu'il y avait une prolongation sur des dépendances artistiques ou littéraires de l'acte médical. Mais profondément, réellement, sérieusement, ça a été une rupture totale.
Et vous n'avez pas eu envie de renouer avec cette généalogie de devenir médecin ?
J'avais envie, mais j'étais convaincu jusqu'à la première scientifique du lycée Henri IV où je me trouvais que j'allais faire médecine. Je m'étais destiné même. J'avais qu'une envie, c'était de soigner et de pas tellement de ressembler à mes aïeux, mais j'aimais l'idée de soigner, sans doute parce que précisément j'avais perdu très tôt un frère jumeau, et j'avais 17 ans, et c'est à ce moment-là, ou 16 ans, que mon père s'est tué d'une chute de cheval, en 73, donc il a 45 ans, moi j'en ai 17, et là évidemment il se passe, ajouté au traumatisme de l'accident d'Olivier, un nouveau choc. Et je me vois encore dans cette cour du lycée Henri IV me dire je bifurque, je quitte la lignée pré-médicale et je m'oriente vers la cour du lycée Henri IV qui était dévolue aux hippocagnes et aux cagnes pour faire exactement comme mon père. Et là, j'ai voulu me mettre dans les traces, dans les pas, dans la mémoire, dans l'histoire de Philippe Garcin, et non plus de Raymond Garcin ou de Clément Launay.
Bon, en même temps, il y avait des livres dans la famille Garcin. Il y avait beaucoup de livres. Hein. Vous dites que vous avez toujours vu, d'ailleurs les deux grands-pères en particulier, avec un livre à la main et de préférence des livres classiques.
Mais moi, j'ai une chance inouïe parce que je suis vraiment né dans un berceau de papier. Papier, effectivement, de tous ces livres, des bibliothèques de mes deux grands-pères, qui sont les grandes œuvres classiques. Et puis évidemment le berceau de papier, qui est la bibliothèque de mon père, éditeur, qui était un très grand critique de lettres classiques à la NRF aussi et dans la revue critique, ce qui fait que j'ai le sentiment d'avoir respiré avant toute autre odeur le parfum du papier.
Vous disiez, Jérôme Garcin, en commençant cette émission, ce qu'était le syndrome de Garcin, mais vous écrivez que le syndrome de Garcin, c'est aussi une manière d'être au monde sous une carapace. Je voudrais vous lire un extrait de votre syndrome de Garcin. Une manière de cultiver la solitude dans des lieux fréquentés, de se donner aux autres avec parcimonie, de se confier le moins possible, de s'ingénier à n'être jamais percé, d'être plongé dans une incessante conversation avec soi-même, une forme douce de schizophrénie civilisée, reposant sur une morale impérieuse et intraitable, qui tiendrait du jansénisme, du luthéranisme, de la royale et du cadre noir.
C'est exactement ce que j'éprouve, à tel point que je peux vous dire que s'il vivait encore, ni mon grand-père Garcin, ni mon père, Philippe Garcin, n'aurait jugé d'un bon œil que je me confie dans une émission comme à voix nue si longtemps. Pour eux, se raconter, c'était s'exhiber. S'exhiber, c'était non pas vulgaire, mais c'était contre nature. Il fallait tout garder pour soi et parler devant un micro. Moi, vous savez, j'ai commencé très tôt dans ma vie professionnelle. Peut-être qu'on en reparlera. J'avais 19 ans et des poussières. Et j'ai eu le sentiment dès le début que j'allais contre tout ce dont j'avais hérité, qui était effectivement cette loi un peu impénétrable et intraitable qui veut que on ne se montre pas. Mais même écrire sur Stendhal, sur Rivarol, sur Mademoiselle de Lespinasse, sur Flaubert, sur Stendhal, comme le faisait mon père, oui. Écrire sur ses proches, sur ses disparus, sur sa famille, sur les siens, c'était même pas envisageable dans ma, en tout cas dans ma famille Garcin.
Merci de le faire alors. On se retrouve pour la prochaine émission, la deuxième, où vous nous parlerez d'un autre syndrome notamment, le syndrome de l'X fragile. On en parlera avec vous et autour de ce livre, notamment Olivier. Merci Jérôme Garcin.
Merci à vous, Caroline.
À demain. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Quérou, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.